Alors nous entrons dans le quatrième exposé et nous continuons, nous poursuivons notre lecture de la lettre de 1 Pierre au chapitre 3. Nous lirons le texte dans quelques instants. Et j'aimerais rappeler ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et nous avons vu que l'espérance est vivante. Elle est vivante parce que le Christ est bien vivant, il est relevé d'entre les morts. Nous avons ensuite vu que l'espérance qui est vivante se vit, et elle se vit notamment au moyen des six impératifs que nous avons relevés dans le chapitre 1 et chapitre 2. Et ensuite, donc hier, Yo a essayé de vous montrer que cette espérance qui est vivante, qui se vit, elle se voit. Et elle se voit au travers de la soumission qui est une marque, une très grande marque d'humilité. Dans le passage de ce matin, nous allons voir, et nous allons continuer à voir que cette espérance vivante, elle se voit, elle change le monde. Et l'espérance vivante produit une contre-réaction au mal, une contre-réaction au péché. En fait, il s'agit de s'opposer coûte que coûte contre le mal, contre le péché. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ s'est déjà opposé au mal et au péché, et il a déjà remporté la victoire à la croix. Jésus le juste a souffert pour des injustes afin de conduire les hommes à Dieu. Le texte de ce matin, donc chapitre 3, verset 8 jusqu'au chapitre 4, verset 6, je l'ai découpé en tout cas en trois parties. Donc la première partie, donc vous avez sur votre livret page 11, donc c'est les versets 8 jusqu'au verset 17. La deuxième partie, donc 18 à 22. Et la dernière partie, donc la troisième, chapitre 4, versets 1 à 6. Et ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par regarder donc la section centrale, donc les versets 18 à 22, et nous reviendrons dans un deuxième et troisième temps à la première partie et à la dernière partie. Et donc par rapport à votre livret, nous commençons par le point 2. Et l'objet ou le thème central du passage de ce matin, c'est la question du baptême. Et nous allons en fait parler du baptême ce matin. Je vous invite à lire donc les versets 18 à 22 du chapitre 3. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Le baptême ordonné par Jésus ne nous invite pas à suivre d'abord des règles, des rituels. Avec tout ça, on peut être loin de Dieu. Et Johan a écrit un livre intitulé « Dieu et les athées, même combat contre la religion ». Il est là-bas, vous pouvez l'acheter à 5 euros. La religion est un ensemble de rites, ou de règles qui ne sont qu'une coquille vide à laquelle il manque l'essentiel, c'est-à-dire l'évangile. Donc je répète, la religion n'est qu'un ensemble de rites ou de règles qui ne sont qu'une coquille vide à laquelle il manque l'essentiel, l'évangile, Jésus-Christ. Croire ou pratiquer une religion ne sauve pas. Croire ou pratiquer une religion ne sauve pas. C'est pourquoi, pour Pierre, donc le baptême doit renvoyer en fait. Ce qui sauve, c'est la foi, nous le savons. Et le baptême, eh bien, un engagement. Et au travers de cet engagement, en fait, pour Pierre, le baptême renvoie d'abord à l'engagement de Dieu. Et donc, lorsque nous recevons le baptême, en fait, nous sommes d'abord renvoyés à l'œuvre salvatrice ou à l'œuvre salvifique de Dieu, sa grâce, son salut et son engagement. Et donc, le baptême renvoie d'abord à l'engagement de Dieu. Et c'est ce que nous montre, en fait, le passage. Si vous reprenez avec moi le verset 18, le verset 18 montre que Dieu s'est engagé envers le monde. Et comment s'est-il engagé au travers, pour le monde ? Au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le Christ, c'est-à-dire le Messie, envoyé de Dieu pour racheter un monde qui est séparé de lui. De verset 18, toujours, dans la souffrance, le Messie donne sa vie pour un monde rebelle en prenant sur lui les péchés et il subit la peine capitale. Le péché, en fait, a reçu son salaire. Et nous avons affaire ici, en fait, au texte de Genèse 2, Genèse 3. Celui qui pêche meurt. Et à la croix, donc, le péché a reçu son salaire. Et donc, Jésus est mort. Mais parce que Jésus était juste, le juste, le celui qui était sans péché, il revient à la vie. Et en revenant à la vie, Jésus donc obtient le pardon des péchés et il rachète celles et ceux qui se tournent vers lui, qui s'approchent de lui. Nous avons ici affaire à ce que, pour les niveaux 1, vous l'avez vu récemment, à ce qu'on appelle la substitution pénale. Et Jean Calvin le formule ainsi, dans sa brève instruction chrétienne, qui en fait est un résumé de l'institution de la religion chrétienne. Nous sommes revêtus, écoutez bien, nous sommes revêtus de la justice du Christ. Et nous, étant injustes par nos œuvres, nous sommes justifiés par la fidélité du Christ. La justice du Christ nous est attribuée comme si elle était nôtre, tandis que notre propre injustice ne nous est pas imputée. Il y a substitution pénale. Donc, le Christ a pris notre place et nous, en fait, nous sommes revêtus de sa justice. Et l'évangile de Jésus-Christ, c'est bien cette bonne nouvelle que Dieu vient dans la fragilité humaine pour sauver les hommes et les femmes que nous sommes. Donc, Dieu s'est engagé au travers de Jésus-Christ. Et donc, par la suite, le verset 19, Dieu va donner, en fait, Jésus va donner le baptême. Le Messie ordonne ou donne le baptême. Et ce baptême, et l'apôtre Pierre donc l'écrit bien au verset 21, c'est l'invitation à reconnaître que Dieu s'est engagé à nous sauver au travers de Jésus-Christ. Le verset 19 donc, indique, et peut-être qu'on peut le relire ensemble, c'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. C'est alors qu'il, le « il » renvoie donc à l'esprit. Regardez la fin du verset 18. Donc, il a souffert une mort humaine, donc le Christ, mais il a été rendu à la vie par l'esprit, et c'est dans cet esprit, verset 19, qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. La traduction Semeur est donc plus explicite que cette traduction second 21 que j'ai lue. Mais donc, l'esprit du Christ, verset 19, si vous reprenez simplement en fait, comment est-ce que le texte est écrit, l'esprit du Christ avait proclamé ou avait déjà proclamé cette invitation, ce baptême, aux hommes depuis la création du monde. Et cette invitation donc, trouve son écho dans la Bible, qui est en fait la parole de Dieu. Et nous avons, en fait, Pierre nous cite l'exemple de Noé. Et j'aimerais maintenant entrer rapidement dans cet exemple. Pierre donne cet exemple de Noé. Et en fait, cet exemple de Noé va représenter une figure. Et pour ceux qui ont fait donc, le niveau 2, et, donc qui sont après le niveau 1, vous avez fait un petit peu de typologie. Donc, je ne vais pas rentrer dans la typologie directement, mais je vais expliquer ce que le texte est en train d'essayer de montrer pour que vous compreniez ce que c'est que le baptême. Parce que c'est un petit peu ça, l'objet de ces quelques versets. Le déluge du temps de Noé, présentait à l'avance, donc en fait, il préfigurait ce qu'allait être le baptême. Vous avez bien retenu, le déluge du temps de Noé préfigurer ce que allait être le baptême. C'est donc une typologie. Et on va reprendre en fait simplement le texte. Alors, regardez pour Noé. À l'époque de Noé, Dieu va pourvoir au salut. Et comment est-ce qu'il pourvoit au salut? Grâce à l'arche. Dieu va demander à Noé de construire l'arche et d'entrer dans l'arche. Et c'est en entrant dans l'arche qu'ils sont sauvés des eaux du déluge. Pour les chrétiens, donc vous basculez, je ne sais pas moi, combien de milliers d'années après, comment est-ce que Dieu va pourvoir au salut? C'est le verset 22. Il nous sauve au travers de la résurrection du Christ. Donc, au temps de Noé, Dieu va pourvoir au salut au moyen donc, de l'arche. Et pour les chrétiens, donc, Dieu va pourvoir à leur salut au moyen de la résurrection du Christ. C'est une typologie. L'arche préfigurait en fait la résurrection du Christ. La résurrection du Christ, donc, qui sauve, verset 22. Et ce qui est toujours parallèle à ces deux éléments, c'est qu'il y avait une décision à prendre au temps de Noé. Noé a été averti par Dieu, et Noé aurait pu aussi décider de ne pas construire l'arche. Il aurait pu faire comme en fait les gens de son temps. Non, c'est pas vrai, les eaux ne vont pas tomber sur la terre. Mais en fait, par la foi, Noé décide de construire et d'entrer dans l'arche. Et c'est ça, en fait, le parallèle qui est avec, me semble-t-il, donc les humains qui, en fait, en entendant la parole, donc la bonne nouvelle, ils décident par la foi de s'engager avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et donc, le parallèle qui est construit, donc, il y a une décision à prendre. Pour Noé, c'était de construire l'arche. Et pour les chrétiens, donc, c'est de s'engager avec Jésus-Christ. Et c'est le baptême, en fait. Et la construction de la typologie, elle est comme ça. Il faut donc prendre position, s'engager avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, donc Pierre écrit, le baptême, donc si vous reprenez le texte avec moi, verset 21, le baptême ne purifie pas, ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais c'est la réponse positive, consciencieuse à l'Évangile. Le baptême, c'est la décision mûrement réfléchie dans le cœur, dans la pensée de suivre Dieu. Et souvenez-vous de ce qu'on a vu déjà depuis le début de la lettre de 1 Pierre. Il s'agit d'abord de tenir son intelligence en éveil, d'être sobre et d'espérer dans la grâce. Donc le salut est d'abord donc, une affaire d'intelligence, donc d'intellect, et il faut prendre position dans notre cœur, dans notre pensée, à suivre, pour suivre, de suivre Dieu. Ça ressemble, le baptême, donc, à l'engagement entre un homme et une femme. C'est un peu comme le mariage. C'est un engagement d'amour et de fidélité jusqu'à la mort pour donc, l'époux et l'épouse. Et donc, le baptisé, celui qui reçoit donc, le baptême, s'engage à aimer et à suivre Dieu selon ses commandements, selon les commandements du Christ. Donc, le baptême, et c'est le point 2 de votre livret, c'est bien donc, un changement de camp. On est passé, et ça c'est ce que Pierre écrit aussi toujours dans la lettre, dans sa lettre au chapitre 2, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, en fait, à sa merveilleuse lumière. Le baptême, donc, c'est une sorte d'exode, en fait. On passe des ténèbres à la lumière. On passe donc peut-être l'esclavage des péchés à en fait donc Jésus-Christ à sa pleine lumière. Et lorsqu'on change de camp, c'est là qu'il va y avoir donc des conséquences. Et là, on va revenir maintenant au premier point, donc à la première partie du texte, les versets 8 à 17. Et là, on va parler un petit peu du principe du baptême. Et on va le définir et vous allez comprendre de mieux en mieux qu'est-ce que je veux dire par principe du baptême. Et donc, nous allons maintenant définir ce que c'est que cet engagement. Et l'engagement, versets 8 à 17, je vous propose de le lire. Maintenant, verset 8, « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'ils se détournent du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Notre engagement s'appuie sur celui de Jésus-Christ. L'engagement du baptême, c'est l'engagement en fait à imiter le Christ. Et Pierre le formule ainsi, verset 3-8 et aussi verset 2 du chapitre 4 que nous lirons après. Il s'agit donc de s'armer de la pensée du Christ, donc de viser le même but. Et le verset 2 du chapitre 4, c'est imiter le Christ dans sa conduite. Et cette imitation du Christ dans sa conduite, qui commence d'abord par donc, un changement de pensée, va déboucher donc sur ce changement de conduite. Et je reprends avec vous les versets 8 à 12. Donc, imiter le Christ, c'est, selon les versets 8 à 12, répondre au mal par le bien. Imiter le Christ, c'est répondre au mal par le bien. Et nous allons regarder, en fait, le principe. Regardez le verset 9. Donc, il y a toujours quelque chose de négatif, et ensuite, il y a quelque chose de positif, de ce que j'ai appelé donc positif, dynamique, actif. Et il y a toujours une conscience, un engagement consciencieux. Vous vous souvenez, donc le baptême est un engagement consciencieux. Il y a quelque chose de négatif, quelque chose de positif et un engagement consciencieux. Et regardez donc le verset 9 avec moi. L'élément négatif, c'est ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. L'élément positif, c'est bénissez au contraire. Et l'engagement consciencieux, c'est vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. On continue, verset 10, 11, 12. Verset 10, l'élément négatif, c'est préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Verset 11, toujours un élément négatif, se détourner du mal. Et en fait, vous avez ensuite l'élément positif, rechercher la paix et la poursuivre. Et enfin, l'engagement consciencieux, parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Le principe à imiter, c'est bien le suivant. Et en fait, ça reprend l'ensemble de l'épître de 1 Pierre. Il faut toujours, en fait, abandonner quelque chose. Et tout à l'heure, Johan a enseigné sur le chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3. Et qu'est-ce que Pierre dit au chapitre 2, verset 11? Il faut d'abord s'abstenir, en fait, verset 11, s'abstenir des désirs de notre propre nature, de notre nature pécheresse, en fait, et ces désirs qui font la guerre à l'âme. Donc, s'abstenir de ça. Et ensuite, dans l'élément positif, donc, il faut faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Il faut abandonner des choses pour pouvoir faire les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et il faut toujours donc garder en tête qui est Dieu. Et c'est ça qui va nous porter durant notre engagement, durant notre vie terrestre. Donc, premier principe à imiter, donc répondre au mal par le bien. Et en déployant donc ce que nous avons vu au moyen des éléments négatifs, positifs et de l'engagement consciencieux. Versets 13 à 17, on continue à imiter le Christ. Et donc, j'ai intitulé donc 13 à 17, souffrir à cause du bien. Et là, on va à nouveau regarder un petit peu comment est-ce qu'on imite le Christ. Donc, reprenez avec moi donc, les versets 13 à 16, en fait, et le 17 va conclure. Vous avez d'abord, en fait, une espèce de question rhétorique, verset 13. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? Donc, ça rejoint l'engagement consciencieux. Si nous avons pour modèle ce qui est bien, qui va nous faire du mal? Donc, en gros, c'est sachez en fait que vous êtes protégés par Dieu en fait dans ce qui peut vous arriver. Donc, faites-le consciemment et aussi avec confiance. Alors, on reprend le verset 14, l'élément négatif, n'ayez donc aucune crainte, ne soyez pas troublés. Ensuite, l'élément positif, ou le principe positif, respectez dans votre cœur la sainteté du Seigneur, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Et verset 16, faites-le avec douceur et respect. Et ensuite, l'élément de conscience, et ça c'est mentionné explicitement, en gardant une bonne conscience. C'est ce que nous dit le verset 16. Donc, imiter le Christ, souffrir à cause du bien, et en fait, lorsqu'on imite le Christ, on souffre à cause du bien. Il y a toujours donc des éléments négatifs, des éléments positifs, et la conscience que Dieu, en fait, est souverain. Et le verset 17 conclut, et en fait, notre passage, le verset 8, et on retrouve le fait de répondre au bien par le mal, verset 17 que je relis, « Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien. » Et ça, c'est un écho au verset 9, « Bénissez. » Donc, il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Voilà, donc nous avons vu ce qu'était le baptême, quel était l'engagement du baptême, le principe du baptême. Et maintenant, donc, nous arrivons à la dernière partie, changer de vie. Donc, troisième point. Et donc, en fait, concrètement, en quoi ça consiste le baptême et qu'est-ce que ça veut dire que vivre le baptême, vivre l'engagement. Et je vous propose de lire les versets 1 à 6 du chapitre 4. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son propre corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir, par le passé, accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Le baptême est un engagement consciencieux avec Dieu. Le baptême, donc, j'ai essayé d'expliquer donc, les principes d'imitation. Et là maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on vit le baptême? Donc pour toutes celles et ceux qui sont passés par les eaux du baptême, qu'est-ce que ça veut dire en fait, concrètement, que vivre le baptême dans la vie de tous les jours? Si je voulais le résumer, le verset 1 et 2 le résume très bien, et en particulier donc la fin du verset 2. Il s'agit de rechercher la volonté de Dieu. Il faut abandonner donc les désirs de l'homme pécheur pour en fait chercher à pratiquer la volonté de Dieu, et le texte est aussi très explicite, pendant le temps qu'il vous reste à vivre ici-bas. C'est très explicite. Tous les péchés que nous avons connus et commis avant notre conversion, il faut vraiment les abandonner lorsque vous venez à Jésus-Christ. Et si nous ne le faisons pas, il faut se poser des questions par rapport à notre engagement, par rapport à notre baptême. Il s'agit vraiment de changer de pensée et de conduite. Et peut-être que ça n'a pas été peut-être très clair pour l'instant, mais je reprends un petit peu la lettre de 1 Pierre. Il y a deux grandes parties dans la lettre de 1 Pierre. Et ces deux grandes parties, donc en fait, traduisent un petit peu le message de 1 Pierre. La jonction de la lettre se situe au chapitre 2, verset 11-12. Et donc, avant le chapitre 2, verset 11-12, Pierre a parlé un petit peu de la transformation intérieure, du changement de pensée. Et à partir du chapitre 2, verset 11-12, on bascule vers, en fait, Donc l'espérance qui est visible, qui se voit, c'est le changement de conduite. Dans cette transformation de pensée, donc première partie de la lettre, et je reprends donc le verset 1, il faut donc chercher la volonté de Dieu, s'armer de la même pensée que le Christ. Et cette pensée, c'est la suivante, nous, c'est toujours le texte. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. Il nous faut garder en tête l'engagement que nous avons pris au travers du baptême. Christ est mort à cause du péché, il est mort pour des injustes afin de nous conduire à Dieu. Et ces injustes que Christ a rachetés au prix de sa vie, ben ces injustes qui sont maintenant déclarés justes, ils veulent aussi en finir avec le péché pour accomplir ce que Dieu veut. Ça, c'est le changement de pensée. Il faut que ça soit très clair. Et dans le combat contre le péché, contre le mal, si ça, ce n'est pas clair pour nous, ça va être très difficile, sans doute, de le mettre en pratique, de le mettre en œuvre. Et donc, ça commence d'abord dans la tête. Et ensuite, ce changement de pensée conduit à un changement de conduite. Et le texte, là aussi, est très clair. Reprenez simplement avec moi le texte. Il faut rejeter tout ce qui est péché. Et Pierre le mentionne ici, au verset 3. Les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les autres beuveries et tout ce qui est idolâtrie criminelle. La volonté de Dieu est décrite dans tout ce que nous avons lu jusqu'à présent. Et en fait, donc, elle dénonce... Et elle veut que nous abandonnions en fait tout ce mal, tous ces péchés qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Donc souvenez-vous, le baptême, c'est un changement de camp. Et ce changement de camp, qui est d'abord un changement de pensée, va se traduire de manière visible. Et donc si on reprend le processus, le changement de pensée conduit à un changement de conduite, pardon, et ensuite ce changement de conduite forcément va se voir et va constituer le témoignage pour en fait le monde qui nous entoure. Et c'est la raison pour laquelle donc vivre le baptême, donc premièrement c'est faire la volonté de Dieu, c'est ce que nous avons vu, et à partir donc du verset 3 jusqu'au verset 6, c'est donc montrer aux gens qu'on est différent, c'est témoigner. Et au verset 16 du chapitre 3, nous avons vu que les calomniateurs seront couverts de honte. Et verset 4 du chapitre 4, maintenant, la bonne conduite du croyant va constituer et constitue un témoignage contre les calomniateurs au jugement dernier. Versets 4 et 5. Donc, ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Et en fait, cette idée de bon témoignage qui va en fait constituer donc un peu une sorte de preuve contre les calomniateurs, on l'a déjà lu au chapitre 2, verset 12. Donc là même où ils vous calomnient, verset 12 du chapitre 2, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir, et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Le témoignage vivant des hommes et des femmes, donc des chrétiens que Dieu a transformés, constitue en fait le témoignage visible dans un monde qui est perdu, qui est déchu et qui a besoin de points de repère. Et ce que nous avons aussi étudié donc dans le livre de Jérémie hier en DAB, face au jugement et à la colère de Dieu, et c'était aussi le cas déjà dès le temps de Noé, il y a un témoignage à rendre. Et j'insiste et je reviens encore sur cet élément. Dans la lettre de 1 Pierre, il ne s'agit pas de faire de l'évangélisation. Pierre vous lit, si vous avez bien lu les 5 chapitres, à aucun moment Pierre dit aux croyants allez parler de l'évangile aux autres. J'ai déjà mentionné au chapitre 3, Pierre dit donc il faut défendre l'évangile lorsqu'on nous le demande. Mais si vous avez bien compris l'ensemble de la lettre de 1 Pierre, il s'agit d'être un témoin vivant de l'évangile. Il faut vivre conformément à l'évangile, ce qui implique laisser tomber tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, tout ce qui est mal. Et c'est parce que nous sommes transformés de l'intérieur et que nous vivons l'évangile les hommes et les femmes de notre temps vivront la différence. Et sans doute que, bien sûr, la lettre de 1 Pierre a un contexte bien particulier. L'Église était persécutée, les chrétiens de la diaspora étaient persécutés. Et dans un monde où on est persécuté, on ne peut pas peut-être directement parler de Jésus-Christ et évangéliser et se mettre à proclamer l'Évangile. Mais par contre, on peut assumer notre foi chrétienne. Et dans un monde où on est persécuté, assumer sa foi chrétienne, ne pas vivre dans la débauche, alors que c'est peut-être la règle pour la société dans laquelle nous vivons, c'est un témoignage qui peut-être est beaucoup plus puissant que de proclamer ou de prêcher juste de belles paroles. Et donc ça, c'est vraiment important pour chacun d'entre nous. J'aimerais conclure en reprenant la référence à Noé, donc la partie centrale de notre texte. C'est une conclusion qui voudrait en fait nous encourager, pour nous qui vivons en 2017. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans le texte. Un petit nombre, à savoir 8 personnes ont été sauvées du déluge. Les adorateurs du seul vrai Dieu sont minoritaires. Et c'est vrai, en France, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, nous ne sommes pas nombreux. Mais c'est plus que peut-être du temps de Noé, où ils étaient 8. Et lorsque Jésus est venu sur terre, il y a 2000 ans, les adorateurs de Jésus étaient très peu nombreux. Et le monde avait décidé de croire en autre chose. En France, et vous le savez, et certainement dans le monde entier aussi, la situation est similaire. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus, on peut, si on voulait raisonner en termes de comparaison, c'est une poignée par rapport à tous les hommes et les femmes qui nous entourent. Alors face à cette situation qui est similaire, ça n'a pas changé depuis Noé, depuis le temps de Jésus et aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment un privilège. C'est à la fois un privilège et c'est une grâce d'être les témoins de Jésus-Christ, de vivre l'espérance que Jésus nous propose, d'être ses témoins là où peut-être il n'y a personne. Et peut-être que pour beaucoup, vous allez vous trouver dans quelques années, dans quelques mois, dans le monde professionnel. Et vous allez être entouré, sans doute, de collègues qui ne sont pas chrétiens. Si vous êtes étudiant encore l'année prochaine, vous serez avec des étudiants, pour la plupart, qui ne sont pas chrétiens. Et ce sera un privilège, et rappelez-vous, un privilège et une grâce de pouvoir vivre l'Évangile et d'incarner l'Évangile. L'Évangile, donc, verset que nous avons lu aussi, a été annoncé aux morts que nous étions, afin qu'après avoir été jugés, comme tous les hommes ici-bas, nous vivions conformément à l'Esprit. Le texte difficile que je n'ai pas explicité, cet Esprit qui est descendu après la mort et la résurrection de Jésus, et cet Esprit qui allait faire une proclamation aux esprits en prison, il y a certainement donc une petite explication à donner. Je vais simplement vous partager pour terminer ce que moi j'ai compris de ce texte et qui m'a émerveillé lorsque j'ai compris peut-être ce que pouvait dire ce texte. Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans, mais le texte est en train de nous dire que par son esprit, verset 19, donc l'esprit du Christ, en fait, cet esprit était déjà agissant au temps de Noé. L'esprit du Christ, et je parle bien du Christ, parce qu'on parle de la deuxième personne de la Trinité, cet esprit, donc l'esprit de Dieu, avait déjà, si je le reformule ainsi, annoncé l'Évangile, avant en fait la venue de l'Évangile lui-même, de Jésus-Christ lui-même. Et donc, c'est vrai qu'on a eu à faire une typologie, parce que, en fait, les gens du temps de Noé, sans doute, avaient déjà entendu l'Évangile. Et Noé l'a entendu. Et c'est pour ça que Noé, par la foi, en croyant en Dieu, a décidé de construire l'arche et d'entrer dans l'arche. Et même si Noé n'a pas connu le Christ, peut-être tel que nous le connaissons dans sa parole, ou ni physiquement comme les apôtres, il y avait déjà le message de l'Évangile qui était proclamé à ceux qui étaient morts. Et Noé a pris la décision, et par cette décision de construire et d'entrer dans l'arche, il a été sauvé. Et nous qui vivons en 2017, nous avons non seulement la parole, nous avons aussi les frères et sœurs, et nous avons donc aussi eu la possibilité d'entendre l'Évangile. Et je veux prier que si vous l'avez entendu, cet Évangile, que vous puissiez le garder, vous l'approprier et aussi le mettre en œuvre dans votre vie. J'aimerais prier pour conclure. Merci Seigneur de nous rappeler que au travers du baptême, tu nous rappelles que c'est d'abord toi qui t'es engagé envers nous. Et dans ton engagement, tu as donné le Fils, et c'est par Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec toi. Et Seigneur, rappelle-nous sans cesse que notre engagement est toujours en fait indexé sur le tien. Notre capacité à croire en Jésus est toujours ton œuvre et ta grâce. Et parce que nous sommes convaincus que notre engagement est lié à ton engagement d'abord et qui se fonde sur ton engagement, nous voulons par conséquent vivre pleinement cet engagement, ce à quoi tu nous appelles. Donne-nous, Seigneur, de vraiment prendre au sérieux la question du péché. Si nous avons reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, donne-nous de vraiment manifester Jésus-Christ comme Seigneur dans notre vie. Et nous allons le manifester parce que nous prenons au sérieux la question du péché. Il n'y a pas de petit, de grand péché. Nous voulons vraiment que tu nous aides à enlever ce qui est mal, ce qui est mauvais dans notre vie. Et souvent, ça commence par les petites choses. Donne-nous, Seigneur, d'être bienveillants, de pouvoir refléter, imiter le Christ dans sa conduite. Donne-nous dans nos paroles, dans nos actions, dans la manière dont nous nous comportons, de refléter l'Évangile. Et je veux vraiment, Seigneur, prier que, ici même, dans ce camp à fond la forme, on puisse commencer à le faire. Et tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons faire qui n'est pas conforme à l'Évangile, qui ne te glorifie pas, Seigneur, je veux prier que pour chacun de nous, nous puissions commencer ou continuer à enlever ce qui est mal et à le remplacer par ce qui est bien. Et comme ce que l'apôtre Pierre nous l'écrit, apprends-nous à bénir au lieu de maudire. Apprends-nous à être bienveillants là où peut-être il y a des choses qui ne sont pas bien. Apprends-nous, Seigneur, entre autres, peut-être parce qu'on n'a pas eu assez à manger ces premiers jours, à te bénir de ce que si nous avons peu à manger, ça nous a appris à dépendre de toi. À être reconnaissant envers ce que tu nous donnes aujourd'hui si nous mangeons mieux. Sois béni pour qui tu es, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen.